Vous êtes sur Fred Film Radio, Bénédicte Pro à Paris en direct du centre Georges Pompidou pour le festival Cinéma du Réel. Et je suis aujourd'hui avec Nicolas Rincon-Gilles. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors vous présentez dans la compétition internationale le film Noche Herida, Nuit Blessée, qui est en fait la dernière partie d'une trilogie colombienne que vous avez fait après Ceux qui attendent dans l'obscurité et L'étreinte du fleuve. Donc avant qu'on parle du film lui-même, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel était le projet derrière l'ensemble de la trilogie ?
En fait, un peu les noyaux du projet, c'est les croisements entre la tradition orale de la campagne colombienne et la violence politique. Sachant que les premières victimes de la violence étaient des paysans, et donc c'est, mettons, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment ces paysans qui en sont vécus racontent ça, et comment ils donnent un sens différemment à celui qu'on croit, à la violence, et comment ils arrivent à surmonter et aller au-delà. Donc voilà, l'idée de la trilogie était celle-là, et donc il y a trois films, parce que les premiers, c'est on est avec Carmen qui habite à la campagne, on voit un peu comment elle vit, elle a un rapport avec les sorcières, elle a été aussi victime des violences paramilitaires. Le deuxième, c'est un peu plus large, c'est un fresque de plusieurs personnes dans les fleuves Magdalena, qui est plus long, et donc dans lequel il y a un homme qui habite au fond du fleuve, qui est un peu celui qui règle les fleuves, tout le monde peut lui demander d'avoir plus de pêche ou tout ça, et dans ces fleuves-là, il y a énormément de violences, puisque les paramilitaires ont tué énormément de gens, ils ont jeté les corps dans les fleuves pour faire disparaître les traces, et donc c'est un peu la rencontre entre la violence et la tradition ancestrale. Et les derniers, donc Noche Herida, Nuit Blessée, c'est sur une famille, donc surtout Blanca, une grande mère, qui a été déplacée par la violence et qui est obligée à habiter en ville depuis 7 ans. Et l'interrogation de ces films-ci, c'est comment elle fait pour s'adapter en ville et qu'est-ce qui se passe avec toute sa tradition riche en ville et comment elle arrive à donner un sens à ce monde nouveau pour elle.
En effet, le personnage principal de Nuit Blessée, c'est Blanca, une petite grand-mère qui fait de son mieux, qui s'est fait des efforts quotidiens contre tous les obstacles pour essayer d'élever ses trois petits-fils. C'est son fardeau, elle n'a pas de répit, il y a les services sociaux parmi les obstacles qui lui font face, mais surtout ses trois petits-fils, le même, qui sont des petits gars qui mentent, qui font pas ce qu'elle lui dit, qui sont pas très obéissants, qui sont assez gâtés finalement. Et donc on a là aussi l'impression d'avoir un portrait du rôle de la femme en Colombie et ailleurs d'ailleurs, hein, la manière dont la femme peut porter sur ses épaules des choses énormes.
Oui, pour moi ça c'était un élément super important du film, c'est-à-dire on sait bien qu'un enfant, adolescent surtout, si c'est un homme, à partir d'un moment donné, il va quitter les noyaux de la famille, c'est normal, il va aller ailleurs, il va faire des expériences qui sont pas tout à fait celles qu'on désire, et ça c'est un problème universel. Et donc Blanca, qui n'est pas la mère directe, c'est la grand-mère, parce que la mère a disparu, elle doit, donc avec une différence des 30 ans au moins, sinon 40 entre elle et ses petits-fils, doit les garder. Et c'est voir comment, dans un contexte très particulier, parce que c'est la Colombie, c'est des quartiers limitrophes dans lesquels il y a une présence énorme des violences cachées qui est liée à plusieurs facteurs, voir comment elle fait pour arriver à que ses petits-enfants aillent dans les droits chemins, et qui est très simple, c'est tout ce qu'elle demande, c'est qu'ils aillent à l'école, qu'ils ne s'abandonnent pas à l'école, et qu'ils viennent se coucher plus tôt, parce qu'elle a trop peur que s'il reste dans la nuit, arrive, c'est ce qui peut arriver avec plein de jeunes là-bas, c'est qu'ils disparaissent. Voilà, et donc c'est un peu comment partir d'un rapport universel, c'est-à-dire comment protéger, guider les nouvelles générations, sachant qu'il va y avoir un moment donné où ça va éclater, c'est-à-dire que la famille, les adolescents vont devenir adultes et ils vont partir, et comment elle, dans un contexte particulier en Colombie avec la violence et sa tradition populaire, arrive à mener ces bateaux-là.
Vous êtes colombien, vous avez vécu en Colombie ou à Bogota jusqu'à vos études, maintenant vous habitez en Belgique, mais enfin, vous connaissez bien. Cela dit, comment vous avez repéré ce personnage qui est très attendrissant? Le film est une ode aux femmes, on disait, vous l'avez même dédicacé à votre maman, mais cette petite femme, elle est touchante dès le début de la première scène, où on voit qu'elle est même plutôt rigolote, c'est juste que sa vie est plutôt dure et qu'elle n'a pas trop le temps de rire. Comment vous avez fait sa connaissance?
Donc en fait, à la base, j'avais la volonté de faire un portrait d'une famille. C'était ça qu'ils cherchaient. Et donc après, dans les familles déplacées par la violence, ils sont toujours un problème des générations parce qu'ils ont été déplacés par la campagne. Et les jeunes qui grandissent en ville, il y a un fossé culturel entre les grands-parents qui ont appris beaucoup de choses à la campagne mais qui sont plus d'utilité en ville. Et donc ça, c'est un peu quelque chose qui arrive un peu partout. Et avec cette idée, je suis allé dans plusieurs quartiers limitrophes à Bogota, parce qu'il faut savoir que Bogota, plus on s'éloigne du centre, plus on va trouver des paysans déplacés par la violence récente, parce qu'il y a une histoire de la violence, et donc plus ouais, on va vers les bas, plus les paysans étaient déplacés il y a longtemps. Et donc j'y suis allé dans plusieurs quartiers, et finalement j'ai croisé Blanca dans un quartier où je pouvais filmer. Voilà, et à partir d'un moment donné on a échangé, et je trouvais qu'elle était, c'était tout à fait un personnage, je dis bien personnage des films, parce qu'elle a un côté guerrière, elle a un côté combattant, elle peut avoir un côté agaçant aussi, ça m'intéresse aussi, ou voilà, il va jamais lâcher, il va tenir sa tribu, et j'aimais bien ces côtés un peu on va vers l'avant, voilà.
En effet, elle vient de la campagne et dans ces bidonvilles, peut-être aussi parce qu'elle veut se protéger de la violence, donc son humble logis est aussi une protection. Mais donc, vous l'avez filmé la plupart du temps, pendant presque tout le film, dans des espaces ultra exigus, où on est donc à la fois un peu enclavé, mais contraint, mais quand même aussi peut-être protégé.
Voilà, donc c'est une maison qu'elle a construite elle-même avec l'aide des gens, mais c'est vraiment des murs qu'elle a placés, tout ça. Donc d'ailleurs, il n'a pas de fenêtre, c'est ce qui est particulier. Et elle n'en a pas besoin parce que c'est aussi pour se protéger. Et donc elle préfère avoir des tables, des planches, des bois qui sont mis comme ça l'une à côté de l'autre, en laissant l'espace pour regarder ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est à la fois quelque chose pour se protéger, en même temps pour regarder toujours ce qui est à l'extérieur. Et c'est vraiment des petits espaces de vie parce qu'il peut pas avoir d'espace large. Et donc tout le travail avec elle, c'était savoir où est-ce que je pouvais me placer pour filmer. Et ce qui m'intéressait énormément, c'est cette idée des nids, en fait, de quelque chose qu'elle a construit dans un lieu qui n'est pas les plus tranquilles, mais à l'intérieur, on a sa chaleur, la chaleur des familles, la nourriture, et je trouvais un bel espace. Quand j'étais sur place, on entend vraiment beaucoup de bruit ailleurs, on entend les chiens, on entend tout ça, mais j'aimais bien ces côtés rassurants qu'il peut avoir une maison qui est fragile, mais qui est faite avec amour, on peut le dire, sans être peur d'être courci, pour avoir du réconfort là-dedans.
On sent déjà qu'il y a une tension donc extérieure-intérieure dans le film. Il y a une autre tension, c'est entre le passé et un passé aussi de violence. La violence, elle est plutôt contenue dans le passé, qui est souvent présente dans les récits qu'elle fait, et le futur, qui est aussi présente dans sa parole, sous forme d'exhortation. C'est-à-dire que, en fait, dans cette parole permanente, parce qu'elle parle quasiment pendant tout le film, c'est des paroles projetées, que ce soit même la prière, qui est encore une parole projetée, ou alors le récit des souvenirs, mais comme pour les exorciser, et puis cette projection sur un avenir qu'elle souhaiterait pour ses petits-enfants, donc cette parole permanente.
Voilà. Ça, c'est cette histoire, la parole est très importante parce que c'est ce qui reste après la violence, c'est ce qu'elle peut donner, et donc c'est avec la parole qui donne un sens, qu'elle guide, tout ça. Donc c'est là où elle construit quelque chose, en fait, malgré plein de choses, c'est dans la parole, dans les récits, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle interprète, qu'elle construit quelque chose. Même quand elle est seule, il y a quelques plans où elle est seule, elle se parle à soi-même. C'est vraiment pas adressé à moi, c'est tiens, je suis en train de faire ça. Et donc pour moi, c'est vraiment son outil de bataille, c'était vraiment la parole, quoi. Vraiment, c'est là où elle est, c'est ce qu'elle a appris, c'est ce qui reste finalement de la campagne qui est plus fort, c'est savoir la manier, et c'est à travers elle qu'on va donner un sens au nouveau événement qui arrive. Donc elle n'était pas préparée pour tout ça.
Oui, en même temps, c'est vrai que ce personnage, elle incarne une certaine forme d'espoir pour ce pays, pour ces communautés, des familles comme elle, parce que la dernière image, c'est quand même cette femme qui s'occupe d'un bébé. Donc, pour finir une trilogie, disons que vous avez choisi un ton qui n'était pas tout à fait celui du pessimisme, quand même.
Et non, c'était très important ça, parce que les deux films précédents, ils sont dans des thématiques plus... c'est la même chose, mais ils finissaient vraiment avec une espèce d'inquiétude par rapport à ça. Ici, je crois qu'on est toujours inquiet, mais on s'est dit... De toute façon, on veut aller vers l'avant. Et Blanca, il y a quelque chose qu'elle dit dans les films qui se trouvait juste, c'est-à-dire, voilà, elle raconte à un moment donné son passé et la violence qu'elle a subie. Et à un moment donné, elle dit, mais c'est des choses dont je ne veux pas me souvenir. Et donc, elle a droit, en tant que victime, entre guillemets, c'est dire, bon, voilà, je le sais, je peux les communiquer, mais moi, je vais vers l'avant, même en étant grand-mère, et je vais amener vers l'avant la famille. Et je pense que c'est un pont, un trajet intéressant entre les spectateurs et ses grands-mères qui s'est dit, je viens de là-bas, mais je suis pas resté là. Dans ma tête, je suis ici, même si c'est dur, je vais tout faire pour aller vers un meilleur futur. Ça, je trouve, C'est l'optimisme, c'est bon, voilà, c'est ce qui m'a fait du bien aussi en les faisant, c'est tout ce qui se passait en Colombie, qui se passe aujourd'hui, c'est des choses qui sont très graves, mais on a la capacité d'essayer de construire des sorties, de donner un sens, voilà. Et bon, après la violence, elle est systématique, elle peut être grave, mais c'est notre capacité à nous, à chacun, de donner un sens. Et là, la parole est super clé, parce que c'est à travers ça que la violence prend une place comme un événement d'autre, et donc on peut continuer à vivre. On ne reste pas dans les passés annihilés par un truc qui a effectivement été, qui a détruit des choses, mais bon, il faut continuer à vivre, on est obligé.
Et vous alors, à l'avenir, qu'est-ce que vous pensez faire? Est-ce que vous préparez des projets qui seront encore colombiens?
J'ai grandi là-bas et donc je sens c'est des sujets qui sont forts en soi, en termes de cinéma aussi. Parce qu'il croise l'imaginaire, mais qui est très concret, avec un réel qui est très dur. Et donc pour l'instant, en fait, à partir du deuxième film sur les fleuves, j'ai commencé à écrire une fiction sur ça. Et puis maintenant, je prépare aussi, mais c'est des projets aussi sur un court-métrage, fiction sur cette question-là qui est très importante. Et qu'est-ce qu'on fait avec la mémoire? Donc c'est un grand-père, son petit-fils. Et la France, je crois qu'elle connaît ça aussi par rapport à l'histoire des résistances, tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces passés qui est important, qui doit être présent là, mais sans que ça écrase les nouvelles générations. Donc, c'est un rapport, c'est un grand-père qui va amener son petit-fils à un endroit qui était très important pour lui. Ça se passe mal, mais les grands-pères vont comprendre des choses et les petits-fils vont aussi comprendre quelque chose. Donc, ça m'intéresse parce que en Colombie, on parle maintenant du post-conflit. C'est un peu une phrase un peu vide, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est plutôt se dire, ok, c'est passé, mais qu'est-ce qu'on fait nous pour continuer à vivre et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour mieux aller mieux. Donc c'est un peu des questions. Donc deux projets de fiction et un projet documentaire aussi, voilà, que j'essaie de mener petit à petit.
Merci Nicolas Rincon-Gilles, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview.
Merci, c'était avec plaisir.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.